Bonjour à tous. Je vous invite à prier. Abba Père, merci de me donner vraiment le privilège de venir partager ton message. Père, aujourd'hui, je viens vraiment avec crainte et tremblement, Seigneur. Que vraiment, ça soit toi, Seigneur, qui me remplit, qui me conduit, Seigneur. Te redonne mes pensées, ma bouche, mes lèvres, tout, Seigneur. Que tout le message vient de toi, Seigneur. Que tu convainc vraiment les frères et sœurs par ton esprit, Seigneur, par la puissance de ton esprit, que ce ne permet pas que cela vienne de moi, Seigneur, de mon intellectuel, intelligence. Et vraiment, merci, Père, pour ce message qui parle de ton amour, de la nouvelle naissance, Seigneur. C'est ainsi que je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le passage d'aujourd'hui sur 1 Pierre 1, verset 22 jusqu'à 2, 3, Pierre nous parlait de la nouvelle naissance. Mais pour commencer, je vous rappelais un peu le contexte de cet épître. Cette épître c'est l'apôtre Pierre qui a écrit, ça date de à peu près juillet 64. En fait, Pierre l'a écrit 2 ans avant sa mort près de Rome. Et les lecteurs de cette époque, ce sont les chrétiens qui vivent sous la persécution. Parce que il y a eu un incendie à Rome et les Romains étaient très en colère. Ils pensaient vraiment que c'est l'empereur Néron qui ont commandé cet incendie. Mais l'empereur a trouvé les boucs émissaires, dont les chrétiens, dont du coup, les chrétiens sont persécutés sévèrement. La persécution sévisse pas seulement à Rome, mais dans toutes les provinces qui sont gouvernées par les Romains. C'est pour ça que à cette époque, les chrétiens sont vraiment persécutés sévèrement, ils perdent leur vie. Et Pierre, en tant que l'apôtre, il leur a envoyé cette lettre pour leur encourager de tenir ferme dans la foi. Et dans cette épître, Pierre rappelle à ces chrétiens du premier siècle, c'est aussi valable pour nous maintenant, ce que Dieu a fait pour eux par Jésus-Christ. Dieu a donné la nouvelle naissance à travers la résurrection de Jésus-Christ. Dieu réserve pour nous un héritage dans le ciel et le salut de notre âme. Ensuite, Pierre leur exhorte de mener une vie de sainteté. C'est la norme de Dieu, puisque nous sommes nés de Dieu. Ensuite, il donne les lignes directives pour l'ensemble des chrétiens, comment vivre dans la communauté. Donc aujourd'hui, j'ai partagé avec vous justement sur la nouvelle naissance que Pierre nous parle. Quand nous disons la nouvelle naissance, vous avez compris que c'est une nouvelle naissance spirituelle. Alors, le verset 22, Pierre nous dit que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. La vérité ici veut dire la parole de Dieu, l'évangile que nous avons entendu. Le verbe croire et obéir, tous les deux, ils sont liés. Quand nous croyons que le Seigneur est sauveur et Seigneur, quand on dit qu'il est notre Seigneur, ça veut dire que nous obéissons à sa souveraineté dans nous. C'est, il y a l'obéir dedans. Si on croit en Dieu, obligatoirement, on doit obéir. C'est un peu comme aimer Dieu amène à obéir à Dieu. L'apôtre Jean l'a dit dans Épître 1, aimer obéir, aimer consiste à obéir à ses commandements. Voilà. Donc, nous sommes, grâce à l'évangile que nous avons accepté, c'est-à-dire obéir à la vérité, Dieu nous a fait naître de nouveau. C'est le même mot, en même temps que la nouvelle naissance, Dieu purifie notre âme et notre cœur par la puissance du Saint-Esprit qu'il agisse. Voilà. Donc, et Pierre nous dit aussi que nous sommes nés, la version de tout à l'heure, il dit d'un homme mortel, c'est mieux, je préfère la version. Pierre nous dit que nous sommes nés d'une semence incorruptible. Ça veut dire la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire c'est par opposition à la semence qui est corruptible, qui est notre chair. Oui, Pierre compare la parole de Dieu qui est vivante et permanente, et dans l'épreuve, l'auteur dit, il est vivant et agissant comme une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure, et il pénètre, il sépare les pensées et les dispositions du cœur. Ça, tout ça pour nous dire que vraiment, la parole de Dieu est vivante. C'est ce que dit Jésus dans Jean 6. Voilà, c'est ce que Paul nous dit aussi pour la nouvelle naissance. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Il nous a sauvés, non à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie. Jésus, dans Jean 6, 66, il a dit, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est pour cela que Pierre a dit que vraiment, pour nous faire comprendre que la parole de Dieu, c'est vivant et permanente. Donc, si nous sommes tous nés de nous, donc nous sommes enfants de Dieu. Selon Pierre, une nouvelle vie spirituelle doit conduire à un mode de vie qui entraîne des changements. Et Pierre présente ici deux changements, deux manifestations. Aimons-nous les uns les autres, ou amour de l'amour pour les uns les autres. Ensuite, aimer la parole de Dieu. Je vais partager avec vous d'abord le aimons-nous les uns les autres. Alors, pourquoi? Premièrement, c'est un commandement qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Le soir, avant qu'il soit livré par Judas aux prêtres et les chefs des Juifs, Jésus avait lavé leurs pieds. Ensuite, il a pris le dernier repas avec eux. C'est après cela, il leur a parlé, donné ce commandement. Je dis trop vite. Jésus leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres? Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Vous voyez dans ces deux versets, le mot amour, aimer, ça s'est apparu plusieurs fois. Et quand le Seigneur répète deux fois, ça veut dire que c'est très important. Voilà. Donc le pourquoi, c'est justement, c'est un ordre qui vient du Seigneur. Et deuxième raison, Jean, l'apôtre Jean, qui est le disciple le plus aimé de Jésus, il nous a bien, bien décrit dans l'épître de Jean. Je vais vous lire avec vous, ensuite je ferai le résumé. Dans 1 Jean, on va lire ensemble, si vous avez la Bible, vous le cherchez, sinon vous lisez avec moi. 1 Jean, chapitre 4, du verset 7 jusqu'à verset 11. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Si vous voulez lire avec moi, c'est vraiment bien. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà, c'est la raison que l'apôtre Jean nous dit. Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Et Paul nous l'a dit dans Romains, la plupart nous avons étudié l'épître de Romains, dans Romains 5, verset 8, alors que nous étions ses ennemis, les pécheurs, Jésus est mort pour nous. Voilà, la raison c'est le pourquoi. Premièrement, c'est un commandement du Seigneur. Deuxièmement, parce que Dieu nous a tant aimés. Puisque nous sommes tous, depuis la désobéissance de Adam à la parole de Dieu et à Dieu, nous sommes tous ses ennemis, les pécheurs. Mais Dieu, dans son grand amour, il ne veut pas voir les pécheurs aillent à la perdition. Il a prévu ce plan qui est accompli en son Fils Jésus-Christ au moment fixé par lui. Jésus est venu. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre et de Paul, lui qui est juste, qui est un agneau sans tache, sans péché, il est allé à la croix en portant nos péchés, ton péché, mon péché, sur lui. Et c'est offert en sacrifice pour vraiment satisfaire l'exigence de Dieu envers les pécheurs. Nous pouvons toujours dire que Dieu est amour, mais n'oublions pas que Dieu est juste. Donc, étant juste, Dieu ne peut pas dire « Ah, tu es pécheur, mais je t'aime tellement, je te dis tu es innocent. » Non, Dieu, il est juste, et il est amour. Donc, pour régler ce problème d'amour, il a envoyé, il n'a pas voulu qu'Abraham sacrifie son fils Isaac, mais il nous a sacrifié son fils Jésus-Christ à la croix, mourir à notre place, payer pour nous le rançon, et tout ce que Jésus fait est parfait, c'est pour ça, son sacrifice, une fois pour toutes, c'est bon pour les pécheurs de l'ancien temps et pour nous. Voilà, cet amour, c'est tellement grand, fort, je vais dire merveilleux, que notre petite tête, on peut pas comprendre. Mais Dieu a décidé de nous aimer et d'envoyer son Fils mourir pour nous sauver. Et Dieu est amour et c'est sa nature. Quand nous prenons la Bible, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, cet amour s'est manifesté, s'est révélé. Nous lisons la Genèse. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, quand ils entendent les pas de Dieu dans le jardin, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur de Dieu. Ils se sont cachés. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Dieu savait est-ce que Dieu sait qu'ils ont péché? Bah oui, Dieu sait tout. Mais dans son amour, dans sa miséricorde, il dit, Adam, où es-tu? C'est comme je cherche Clément, je dis, Clément, où es-tu? Voilà. Dans son grand amour, il fait pas comme nous, des parents. Moi, si Clément fait une erreur, bah, je vais l'engueuler tout de suite. Mais non, Dieu non. Dieu prend vraiment amour encore, Adam, par l'amour. Et pour finir, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a tué les animaux, prend la peau pour mettre sur Adam et Ève pour couvrir la honte et leur nudité. Et ce geste symbolise, préfigure, ce que Jésus fait plus tard pour nous. Dans Ésaïe, je ne me souviens plus quel chapitre, mais vous sommes revêtus du manteau de justice par Jésus. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit que Jésus est notre justice, notre libérateur et la source de notre sainteté. Vous allez sur l'Ancien Testament, le peuple d'Israël. Est-ce qu'ils sont meilleurs, intelligents que les autres? Mais non, Dieu les a choisis encore par amour. Ils ont X fois désobéi à Dieu. Dieu a patienté pendant plus que 800 ans avant de les renvoyer, de les faire déporter. C'est pour ça qu'en Paul dit l'amour est passion. La passion de Dieu dépasse notre passion à nous. Ensuite, on arrive à Jésus, au Nouveau Testament. On a vu que Jésus s'est offert pour nous. Et Jésus, il a aimé ses disciples jusqu'au bout. Et dans Apocalypse, c'est encore l'amour de Dieu, puisque la promesse de Dieu, c'est qu'au retour de Jésus, nous aurons une nouvelle patrie, le royaume de Dieu. Et là-dedans, je vous encourage. Moi, je retiens ce verset par cœur. Apocalypse 21, verset 4. Je vois descendre du ciel la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité. Dieu est avec eux. Dieu essuiera les larmes de leurs yeux. La mort n'y sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Super. Vous voyez, c'est encore par l'amour pour ceux qui l'ont choisi que Dieu a préparé. Donc, il n'y a pas de doute, pour moi, l'amour, c'est la nature de Dieu. Voilà, mais vraiment, c'est Dieu est notre créateur, il sait de quoi nous avons le plus besoin. C'est l'amour. Chaque homme, chaque être humain a besoin d'être aimé, a besoin de se sentir aimé. Est-ce que vous dites amen ou pas? Oui? Je vous raconte ces expériences que les scientifiques ils ont fait. Peut-être que je vous l'ai déjà dit. Ils ont pris des groupes de nouveau-nés. Le premier groupe, ils leur donnent seulement le biberon. Pas de toucher, rien du tout. Pas de parole, rien. Deuxième groupe, les nouveau-nés sont portés, on leur parle, on donne le biberon. Un mois plus tard, je ne sais pas combien de temps, mais après, devinez qu'est-ce qui arrive à ce premier groupe, qui sont seulement nourris par les biberons. Ils sont, oui, t'as raison, ils sont morts. Alors le deuxième groupe, qui ont eu des gestes d'amour, touchés, parlés, ils ont grandi. Et ceux qui n'ont rien eu que par la nourriture, le lait, ils sont morts. Vous voyez? Oui? Oui, c'est vrai, oui. Bon, je sais pas, il paraît que c'est les Russes qui ont fait cette expérience. J'ai entendu quelqu'un me raconter ça. Donc, c'est vraiment réel. C'est vrai, c'est bon. Ouais, vous voyez que l'amour, c'est quelque chose de, on ne peut pas vivre sans amour. D'accord? Alors, Voyons notre monde aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. Certes, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, hein. Numérique, médical, on sait créer des clones, on fait des clonages, on crée des robots, on envoie les hommes jusqu'à l'univers, tout ça. Mais les hommes n'ont jamais réussi à combler le besoin le plus profond du cœur de chacun d'être. Ce besoin d'être véritable, aimé, être accepté quel qu'on est. Et c'est pour ça que le nombre des suicides chez les jeunes, ça monte en flèche dans tous les pays. Hein. Et les dépressions, l'anxiété, angoisse, violence. Et moi qui travaille dans les écoles depuis à peu près presque 2 ans, qu'est-ce que j'ai constaté? Il y a pas mal d'élèves qui présentent des troubles de comportement agressif. Et ça devient de plus en plus tôt. Pas seulement vers les 12-13 ans, mais même dans la maternelle, vers 3-4 ans. Et souvent, quand je regarde la composition de la famille, souvent c'était les parents séparés, la mère monoparentale. Donc, il n'y a pas d'autorité du père, il manque d'amour, donc les enfants sont laissés à eux-mêmes, se sont pas aimés, ils deviennent agressifs, ils mordent les élèves, ils mordent les enseignants. Bon, vous voyez, c'est... Voilà, nous sommes dans un monde où il manque d'amour. C'est aussi pour la raison pour laquelle Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, puisque nous sommes tous dans la même famille. Dieu est notre Père, et Dieu, par nature, il est amour. Si nous sommes nés de lui, nous héritons cette nature d'amour de Dieu. C'est pour ça l'apôtre Jean, il dit, nous devons nous aimer les uns les autres. L'apôtre Jean va encore plus loin dans un autre verset. Si je déteste le frère que je vois, comment je peux dire que j'aime Dieu que je ne vois pas? Voilà. Ensuite, nous allons voir comment y arriver. Vous ne m'avez pas demandé, Eliane, c'est bien ce que tu dis, c'est très beau, mais comment y faire, y arriver? Comment arriver à nous aimant les uns les autres, de façon concrète? Il n'y a pas des chemins rapides. Premièrement, je pense, c'est que nous tous fixons nos regards sur Jésus-Christ crucifié. Prenez du temps, passez avec Dieu. Ça veut dire lire la Bible. Pas seulement lire, mais retenir pour pouvoir méditer. Méditer sur les caractères de Dieu, de Jésus, méditer sur son amour, sur ce que Christ a fait pour nous, sur ses promesses. Et vous verrez, peu à peu, en faisant comme ça, c'est comme tout à l'heure je vous ai dit, nous sommes nés grâce à la semence vivante, la parole de Dieu. En faisant comme ça, c'est comme nous prenons soin de notre jardin qui a la terre, on remue la terre, on enlève les mauvaises herbes et on l'arrose pour que cette semence que Dieu met en nous puisse croître. Je peux vous dire, moi qui ai un jardin, j'ai pas le temps de s'occuper de mon jardin, ben les mauvaises herbes ils poussent presque plus grand que mes rosiers. Voilà, pour moi les mauvaises herbes c'est les péchés. Si on laisse le péché nous envahir, après on ne voit plus la vie de sainteté de Dieu en nous. Voilà. Bon, premièrement, vraiment passer du temps auprès de Dieu en lisant sa parole, prier. Ça c'est comme Jésus nous l'a dit dans Jean 15, 4 à verset 4 à 5. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner du fruit toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner du fruit si vous ne restez pas attaché à moi. Je suis la vigne, vous êtes des branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, Jésus répète vraiment que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Deuxièmement, c'est débarrassons-nous de toute méchanceté. L'apôtre Pierre l'a dit en partie, toute ruse, toute l'hypocrisie, l'envie, médisance. Toutes ces choses-là appartiennent à notre vieille nature, avant notre nouvelle naissance spirituelle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes nés de nouveau, nous sommes obligés d'avoir des changements de comportement. Si on reste pareil comme avant, qu'est-ce qui prouve que nous sommes nés de nouveau? Et parce que toutes ces choses-là, Pierre l'a dit aussi, en parlant de l'homme est comme l'herbe, sa gloire est comme la fleur. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Tout ça pour nous dire, tout ce que nous avons dans cette vie, sur la terre, dans le monde, les richesses, la réussite, la célébrité, les pouvoirs, tout cela, ce n'est qu'un moment très court, éphémère et temporaire, par rapport aux positions à ce que Dieu nous a gardé pour nous. Pierre, il a dit dans le chapitre 1, verset avant, un héritage dans le ciel qui ne peut pas détruire, qui ne perd pas son valeur. Et que ce que vous avez dit tout à l'heure, dans le nouveau monde où il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de... Joël, toi et moi, on sera au chômage, mais tant mieux. Il n'y a plus de maladie. Donc, il n'y a que la joie, il n'y a que la paix, il n'y a que le bonheur. Voilà. Débarrassons-nous de tout ce qui attache à nous de notre vieille nature. Donc, cet été, j'ai décidé de prendre du temps pour arracher tous mes mauvais herbes dans mon jardin. Et vous voyez, c'est moi, à chaque fois que je vais dans mon jardin, quand je vois des mauvais herbes, ça me pensait au péché qui est en moi. Je me suis dit, si j'enlève pas, si je répentis pas à chaque fois que j'ai péché, bientôt, je vais plus être attentif au Saint-Esprit. Je vais attrister le Saint-Esprit, Saint-Esprit finit par ne plus me donner les... pour dire attention. Voilà. Et surtout aussi, rappelez-nous que nous sommes nés de nouveau. Nouvelle nature, nouvelle identité. Nouveau comportement. Donc, ne conduisez plus comme nous étions avant. N'aimez plus de la même façon que nous avons aimé avant. Aimez, comme Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Prenez exemple sur Jésus-Christ. Si nous faisons tout cela, l'Église sera parfaite. Mais il y a aucune Église parfaite sur la terre. Mais si chacun de nous fait un effort, ça peut aller de l'imparfait vers faiblement parfait, moyennement parfait, voilà, jusqu'au jour au ciel, ça sera parfaitement parfait. Et alors, aimer c'est un verbe, donc c'est un acte volontaire. Jésus l'a fait, il l'a montré. Alors, il a montré quoi, son amour? Mourir pour nous. Donc, aimer, ce n'est pas sentiment, hein. C'est pas un sentiment ou une émotion. Si je dis à Clément que je t'aime, mais je lui donne pas à manger, je lui habille pas et tout, C'est pour ça que l'apôtre Jean aussi l'a dit. Désolé Clément, Laurent n'est pas là, je suis obligée de te prendre comme exemple. Alors, c'est pourtant l'apôtre Jean encore, il l'a dit dans l'épître Jean, nous avons récité pendant un certain temps. N'aimons pas, mes chers enfants, n'aimons pas en parole avec les lèvres, mais en acte et avec vérité. Donc, si je dis, bon, je prends plus Clément comme... si je dis à mon mari que je l'aime, et quand je pars en vacances, je lui dis, débrouille-toi tout seul. Non, quand je pars en vacances, bon, même pendant 2 semaines, je prépare les plats et je mets dans le congélateur, comme ça, il peut avoir ses plats tous les jours. C'est aussi un acte d'amour. Voilà, c'est pour ça, j'avoue que c'est pas facile de dire comme ça, aimons-nous les uns les autres. Bon, c'est facile, je vais prendre quelqu'un, je l'embrasse et ça dure 3 secondes et voilà, après. Mais il faut que ça, c'est dans la durée. Ça veut dire que chacun de nous doit vraiment, et chacun de nous, on a des caractères différents. L'autre jour, Anne-Marie m'a dit, t'es une forte personnalité, moi aussi, mais on s'est pardonné ensemble, mutuellement. Donc, vous voyez, c'est ça, les actes d'amour. Donc, chacun vient d'une culture différente, tout c'est différent. Mais justement, merci Seigneur, on est différents, mais grâce à son amour, grâce à cette semence incorruptible, grâce à la puissance du Saint-Esprit qui régénère notre cœur, qui nous donne la nature de Dieu, si nous appliquons à obéir, à aimer comme Jésus aime, on peut y arriver. Je dis pas que c'est parfait, mais on peut y arriver. Chacun y mettre le sien. Donc concrètement, l'autre jour, Laura a proposé de former une équipe de nounous pour s'occuper des bébés, pour que les parents puissent écouter la prédication. Ça, c'est un acte d'amour. Et quand Clément m'a dit, il est allé voir Rachel, visiter Rachel et son mari avec Tatiana, et que Sylvie et David vont y aller, et puis Laura aussi, et moi aussi, j'avais pensé y aller. Vous voyez, ça, c'est un geste d'amour. On va pas dire à Rachel, je t'aime, et d'accord, ton mari ne va pas bien, bah, on va prier pour toi, et point barre. Non. C'est par geste et amour. Je vais vous partager une chose, peut-être, oui. C'est mon vécu. Pourquoi je suis venue chez vous à Saint-Maur? Parce que j'étais dans l'ancienne église, pendant 6 ans, à peu près. Et parce que justement je suis partie parce que j'ai pas ressenti vraiment l'amour, la communion fraternelle dans cette église. Comme j'étais médecin, quand ils ont besoin de moi, bien sûr ils courent à mon cabinet et voilà, et Yann-ci et Yann-là, bon, je les sers. Quand je fais la fête, ils sont invités chez moi. Mais quand mon père est tombé gravement malade, presque dans le coma. À l'époque, notre fille n'a plus de pasteur, mais il y a un autre pasteur qui s'est occupé. Je l'ai mis au courant. Et en même temps que mon père, il y a une fille d'une autre sœur qui est tombée aussi malade dans le coma. Et à chaque fois quand je vais au culte, à cette église, tout le monde allait voir cette sœur dans la fille qui est dans le coma, lui demandait tout. Et moi, j'étais là, plantée comme ça. Personne ne me demandait comment va ton père, et rien. On me demandait toujours, moi, est-ce que toi, tu vas bien? Bien sûr, je vais bien, je suis pas malade. Voilà. Ça, à la fin, à l'obsèque de mon père, à l'époque, j'étais aussi responsable parmi tous les responsables, on pourrait dire tous les gars qui étaient avec moi. Aucun n'est allé aux obsèques. Alors, quand il y a un couple de deux frères et sœurs qui est assez distant, ils sont venus. Pour vous dire ça, moi, je peux plus rester, quoi. J'ai dit, pareil, j'ai dit à Clément, là, je suis desséchée, j'ai fait des efforts pour rester pendant des années. Mais là, c'est un coup, c'est une goutte qui déborde. Voilà, c'est pour ça que je suis arrivée à Saint-Maur. Et par contre, à l'époque, qui m'a touchée le plus, c'est quand mon père était à l'hôpital, Clément m'a appelé, dire que le pasteur Nguyen peut venir visiter mon père. Et à l'époque, je ne le connaissais pas. Et là, j'étais touchée. Je me suis dit, le pasteur d'une autre église qui ne connaît pas mon père, qui veut voir mon père, alors que le pasteur de mon église, qui est au courant que mon père, comme ça, il n'a jamais passé un coup de fil, ni rien. Voilà. Bon, merci Seigneur, parce que dans son amour, c'est pareil, il a envoyé pasteur Daniel pour, voilà, dans, vraiment, et après, par la suite, pareil, merci Seigneur, grâce aux prières, mon père s'est converti un mois avant son départ, et c'est aussi pasteur qui est venu chez moi l'a baptisé. On ferme la parenthèse. Bon, pour vous dire que, je crois, il y a un pasteur qui prêche comme quoi, pour voir l'amour de la des personnes pour les frères et sœurs, on peut le voir au moment des obsèques. Si les gens y vont, parce que au mariage, tu invites tout le monde, bien sûr, tout le monde vient, hein, mais aux obsèques, voilà. C'est, je ne dis pas, c'est un reflet, quoi. C'est un reflet. Bref, voilà. Donc, vous voyez, et dans certaines églises, les pasteurs, ils donnent l'ordre à tous les chrétiens, ils disent, après le culte, vous n'allez pas vers ceux que vous connaissez très bien. Vous allez vers les nouveaux arrivés, parler avec eux, s'occuper d'eux pour qu'ils se sentent bien, bien vraiment reçus. Et ça, c'est très important. C'est vrai que quand avec Laurent, on était à Taïwan, on est allé au culte. Mais l'église est tellement énorme, ils étaient 200 personnes, on est arrivé, on est reçu par une sœur qui nous connaissait, il nous a planté sur deux chaises. Et après qu'on partait, c'est comme si ni vu ni connu. Donc voilà, ça c'est peut-être des fois c'est des grandes églises, mais nous à Saint-Mont, nous sommes une petite église. C'est vrai, il y a différents âges, mais si nous appliquons, si nous obéissons aux commandes du Seigneur, aimer les autres comme Christ nous a aimés. Même l'autre qui n'est pas aimable, je pense qu'on doit faire des efforts. Si on fait des efforts, Dieu nous aidera là-dedans. Voilà. Bon, j'espère que personne ne doit être sanctifié, mais moi y compris, je pense que moi je dois faire aussi des efforts pour que vraiment, dans notre communauté de Saint-Mont, que vraiment nous puissions sentir que on est accepté tel qu'on est, avec peut-être mon sale caractère. Voilà. Puisque Dieu nous aime tel nous sommes. Si on veut aimer tel que Jésus aime, on doit faire pareil. Voilà. Ensuite, le dernier, c'est aimer la parole de Dieu. Pierre, dans le verset 2, quand il dit que, je vais vous le relire, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ici, ce mot lait que Pierre veut dire, c'est vraiment le sens positif. Ça concerne la parole de Dieu et l'enseignement biblique, vraiment pour tous les chrétiens. C'est pas le même sens, par contre, quand Paul l'utilisait dans 1 Corinthiens, que Paul a utilisé, parce que pour Paul, le lait, c'est les enseignements élémentaires que pour les chrétiens nouveau-nés, et la nourriture, je crois il a dit la viande ou la nourriture solide, c'est pour les enseignements plus importants. Mais ici, le lait pur de la parole, Pierre veut dire vraiment l'ensemble de l'enseignement biblique, de la parole. Donc Pierre ici, il compare nous, les nouveau-nés chrétiens spirituels, aux nouveau-nés physiques. Esther et Sylvie vient d'être maman, Rachel aussi. Bon, le nouveau-né, quand il sort du ventre de la mère, son instinct, la première instinct, c'est quoi? Téter, boire du lait, n'est-ce pas? Non, pardon. Le premier instinct, c'est pleurer, d'abord. Pleurer. S'il pleure pas, il meurt. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Des poumons, oui. Parce que parce que dans le ventre, il n'a pas besoin de respirer. Mais maintenant, il est coupé des cordons, il est obligé de respirer. C'est en pleurant, il a fait rentrer l'air dans ses poumons, ses alvéoles, pour gonfler, que les poumons sont gonflés l'air. Bon, Clément, désolé. Quand Clément, il est né, il n'a pas pleuré tout de suite. Donc, l'obstétricien a oublié de donner une fessée pour qu'il pleure. Pour qu'il soit rempli de ses poumons, pour qu'il puisse vivre. Voilà. Je t'ai déjà raconté ça. Bon, bref. Donc voilà, premier instinct, c'est pleurer. Deuxième instinct, c'est téter. Le nouveau-né sans lait, il peut pas vivre. Donc aussi, il faut qu'il boive assez pour assurer la croissance. C'est pour ça que Pierre souhaite que nous, les nouveau-nés, on ressemble à ces bébés. Avoir soif et faim du lait pur, la parole de Dieu, les dévorer jusqu'à la satiété. Voilà, c'est Pierre souhaite qu'on soit comme ça. Et si on ne lit pas assez, notre croissance spirituelle, ça sera pas en bon état. Quand je suis allée au Cambodge, ils sont vraiment sous-alimentés. Un enfant de 12 ans, il a la statue d'un enfant de 6 ans, hachitique. Alors, nous, les chrétiens, si nous mangeons pas assez du pain spirituel, du lait spirituel, nous serons comme ces enfants hachitiques. Voilà, donc la volonté du Seigneur, c'est que nous tous croître vers l'état adulte, ressembler à Jésus-Christ. En fait, cet amour que nous avons les uns pour les autres, c'est un avant-goût de ce qu'on avons connu dans le ciel. Donc, c'est vraiment important que dans ce monde qui manque d'amour, qui n'a pas d'amour, qui sont plutôt individualistes, qui chacun pour soi, le nombre de divorces, pourquoi ça augmente chaque fois? À chaque fois, ça me fait mal en cœur quand je vois des élèves, au moins un sur deux, même plus qu'un sur deux, toujours les parents divorcés. Tout ça, c'est vraiment manque d'amour dont chacun est pour soi. Et voilà, c'est pour ça que Jésus nous ordonne de nous aimer les uns les autres, afin qu'à travers cet amour, que le monde puisse voir cet amour de Dieu qui les attire à vouloir connaître Dieu et recevoir de Dieu l'amour et le salut. Voilà, je vais résumer. Pourquoi Pierre nous donne ce commandement? Parce que cela vient du Seigneur et que Dieu est amour par nature. Nous sommes nés de nouveau, nous avons hérité cette nature de Dieu. Donc, aucune excuse. Dieu est juste et fidèle. Quand il nous demande quelque chose, il nous équipe et nous forme. Voilà. Donc, la nature de Dieu est en nous, la semence incorruptible, le Saint-Esprit, il est en nous. L'amour fait partie du fruit du Saint-Esprit. Dans Galates. Donc, vraiment, nous pouvons y arriver. En faisant l'effort, tout en comptant sur le Saint-Esprit. pour conclure. Frères et sœurs, nous avons vu, pour nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que nous avons connu l'amour de Dieu. Cet amour qui dépasse notre connaissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 3, il prie pour que nous connaissions la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de cet amour. Et que la connaissance de cet amour vraiment remplit en nous pour que nous ayons la plénitude de Dieu. Et Paul nous a dit aussi dans Romains 8 que aucune créature, aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en nous. J'aime bien un chant chinois qui chante nous aimons parce que Dieu nous a aimés en première. Et là où il y a l'amour, là c'est le paradis. C'est pour ça que je vous dis, c'est un avant-goût du paradis. Voilà, c'est pour ça, pour terminer, vraiment, je vous encourage, moi et vous, que chacun fasse des efforts, tout en dépendant sur le Saint-Esprit, pour obéir à l'ordre du Seigneur et mettre en pratique ces deux commandements. Aimer Dieu, passer du temps avec Dieu, lire sa parole, méditer, prier et aimons-nous les uns les autres. Voilà. On va prier ensemble. Abba Père bien-aimé, merci parce que tu nous as montré ton amour par vraiment le don de ton Fils à la croix, alors que nous ne méritions pas. En tant que pécheurs, Seigneur, nous méritons surtout plutôt la ruine éternelle, être séparés pour toujours de toi, Seigneur. Mais comme Paul nous a rappelé, Seigneur, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous sommes morts en raison de nos fautes, tu nous as fait vivre de nouveau par Jésus-Christ. Voilà, Père, mon souhait, c'est que vraiment tu nous pousse vraiment, étant aimé par toi, étant rempli par ton amour, saisi par ton amour, que tu nous donnes cette envie, cette courage, cette volonté d'aller vers les sœurs et frères, même si parfois nous voulons pas, mais que ça soit vraiment un ordre de ta part, que tu nous donnes cette obéissance, Seigneur, que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres pour que chacun puisse s'encourager et porter vraiment les uns les autres dans les besoins et dans les prières, et que nous puissions vraiment nous pardonner aussi les uns les autres, Seigneur, que vraiment puissions montrer que dans ta famille, Seigneur, les frères et sœurs doivent vraiment vivre dans l'harmonie, puisque tu es amour par nature, donc nous devons avoir cette nature en nous. Seigneur, merci. Et je te demande pardon pour chacun de nous. Nous n'aimons pas autant que tu veux qu'on arrive, mais Seigneur, avec ton aide et avec notre volonté, nous comptons sur toi et nous comptons sur nous-mêmes et nous pensons que nous allons y arriver. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.